en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Michel Mort, nous faisons votre habit vert, nous vous taillons un costume, vert bien entendu. Et voilà 20 ans, en février 86, que vous avez été élu à l'Académie française. Et dans votre discours de réception, vous parlez de reconnaissance et de fierté. Est-ce que c'est une élection qui vous a marqué? Et qu'est-ce que l'Académie française représente pour vous?
Une réunion de gens choisis pour leur qualité d'homme, puisqu'on y a vu des généraux qui n'avaient pas écrit, ou qui se réunissent régulièrement toutes les semaines pendant quelques mois de l'année et discutent entre eux de problèmes qui paraîtront un peu secondaires et à beaucoup de gens, des problèmes touchant la littérature et la littérature qui se fait, qui se publie. Et donc, la plupart des 40 académiciens qui se rencontrent depuis Louis XIV ne sont pas très connus et n'ont pas laissé d'œuvres remarquables.
Oh, quand même, écoutez, il y en a quelques-uns. Il y a Voltaire, il y a Michel Déon, il y en a plusieurs quand même.
Non, mais
est-ce que c'est une armée d'élite de la littérature?
Oui, en principe, c'est une armée d'élite dans la mesure où ce sont des œuvres en français. C'est donc la langue française qui est
à l'honneur
et qui est parlée par eux et qui est écrite par eux.
Alors, vous êtes l'un des 30 Bretons, dites-vous quelque part, élus depuis le début des temps à l'Académie française. Bon, qu'est-ce que vous en ressentez? Vous vous sentez un devoir de Breton?
Ah, tout à fait. Oui, je me suis fier d'avoir été un Breton qui est élu à l'Académie. Pourquoi? D'abord, je suis Breton aux trois quarts par la naissance. C'est-à-dire que bien que mon nom ne soit pas Breton et que les hommes de la famille ne sont pas bretons, toutes les femmes le sont.
À votre père ne l'était pas?
Si, mon père l'était à moitié.
Ah, voilà, oui.
Sa mère était bretonne, son oui. Père ne l'était pas. Et donc, je suis aux trois quarts breton.
Alors, vous avez une très jolie page. D'ailleurs, j'espère que vous allez me chanter une petite chanson, parce que vous dites que votre mère chantait, que tout le monde chante dans vos livres, des chansons correctes et des moins correctes. Et dans la maison du père, vous racontez votre père et votre mère. Est-ce que vous pourriez le lire et de nous parler de cette enfance heureuse? Parce que peut-être c'est compliqué d'avoir une enfance heureuse.
Je ne l'ai pas trouvée compliquée. Elle a été très simple, très charmante, grâce à ma mère surtout, qui était une femme qui était brestoise, fille d'une famille de marins surtout, et qui était très élégante et qui avait beaucoup de charme et qui jouait du piano et qui, au piano, jouait des chansons à la mode.
Alors oui, qu'est-ce qu'elle chante? À un moment donné, j'avais vu ça, elle chante une chanson que vous connaissez peut-être encore, non?
Je ne sais pas, je crois que les chansons que je connaissais, car mon signe astral est
oui.
Le taureau.
Ah bon, et vous croyez au signe astro quand même, vous êtes vraiment breton, vous êtes superstitieux.
Et le taureau aime chanter, paraît-il.
Alors voilà, est-ce que vous connaissez encore « Prends ton fusil Grégoire »?«
Prends ton fusil Grégoire, prends ta vierge d'ivoire, prends ton... »
Ta gourde pour boire.
Ces messieurs sont partis pour chasser la perdrix. La perdrix, c'était les blés bleus.
Oui.
C'est les bleus, c'est-à-dire
les Vendéens, enfin,
les soldats
de la République.
De la Révolution.
Oui, c'est ça.
Soldats de l'armée française après la Révolution.
Et donc votre mère chantait pour les blancs.
Quand ils sont entrés en Vendée.
Ah, oui.
C'est la guerre de Vendée.
Voilà, oui.
Qui a été une chose terrible. Et vous savez que je crois qu'aujourd'hui, les historiens reconnaissent qu'il y a eu là une boucherie contre les Vendéens qui ont été descendus par d'autres Français.
Alors, dès le début, finalement, vous n'avez pas les idées qui plaisent aujourd'hui. Vous n'êtes pas très politiquement correct, comme on dit aujourd'hui.
Je ne suis pas politiquement correct aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes traditionnel. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime votre littérature et j'aime tout à fait ce que vous racontez. Mais vous avez une grande insolence qui est la liberté, finalement. Vous êtes un homme libre et vous dites quelque part que vous êtes un homme horizontal. Alors ça, c'est très curieux, en face de Blanchot. Blanchot, dont vous dites que c'est un vertical qui aimait l'Allemagne et les montagnes et je ne sais quoi. Vous êtes plutôt horizontaliste. Dans votre discours de réception, vous voyez à l'Académie française, vous dites que vous êtes un horizontaliste qui aimait les paysages de mer et d'ouest et d'au-delà. Vous ne vous rappelez pas ça?
Non, pas du tout. C'est la première fois que j'entends dire que je suis horizontaliste.
Oui, justement, ça m'a paru bizarre, parce que vous m'avez l'air plutôt vertical. Vous le dites, voilà. Quand vous parlez de Marcel Brion,
oui,
dans votre discours donc de réception, puisque vous lui succédez, vous dites « Ayant contemplé les grands espaces maritimes, je suis un homo horizontalis et il me faut parler d'un homo verticalis amoureux des hautes montagnes de l'Europe ». La distinction est de Marcel Brion lui-même. Ah oui, c'est de Marcel Brion lui-même. Mais heureusement, en dépit de cette différence, nous avons des points communs. Et d'abord, une même origine celtique. On y revient. Alors vous voyez, je connais votre discours de réception presque mieux que vous.
Mieux que moi, oui. J'avais oublié ce mot d'horizontaliste.
Alors, si vous pouvez me lire la description que vous faites de votre père et de votre mère, nous commencerions votre vie avec vous. C'est dans La Maison du Père. Hein.
C'est un livre que j'ai écrit tout de suite après la mort de mon père, qui est mort à un âge assez avancé d'ailleurs. Et ça m'est venu tout de suite. J'ai éprouvé le besoin, alors que je ne voulais pas écrire du tout d'ouvrage personnel. Je sais que mes romans sont en partie autobiographiques. Mais pourquoi? Parce que je crois que dans le roman, qui pour le faire vivre des gens, l'écrivain est obligé de se souvenir de gens qu'il a connus, ou des siens même, en modifiant peut-être, en changeant certaines choses, mais il ne peut pas inventer entièrement quelqu'un. Il doit prendre des choses dans la vie de tous les jours, tel qu'il l'a connu.
Alors, même vos titres, d'ailleurs, ont du panache, il faut le dire, parce que je rappelle certains des titres, « Mon royaume pour un cheval »,« Le serviteur fidèle »,« L'ours des Adirondacks »,« L'air du large ». Alors, « L'air du large », c'est vraiment votre air à vous. Et justement, voilà, vous l'avez connu enfant auprès de votre père. J'attends la description maintenant de votre père, rédigée par Michel Mort.
Je vois mon père assis après le dîner, dans son fauteuil Voltaire, près de la cheminée, tisonnant le feu, lisant un livre posé sur ses genoux, l'un des 12 ou 15 volumes cartonnés noirs d'une encyclopédie allemande qui s'alignait sur un rayon de la bibliothèque, ou bien un roman nouveau à couverture jaune, le dernier Pierre Benoît ou le dernier Mauriac, ou encore, car il avait séjourné en Angleterre, parlait l'anglais couramment et l'allemand où il avait été étudiant, de Boater ou de Small House at Ellington, de la série des Barchester Towers, d'Anthony Trollope, qu'il avait au complet et dont il faisait ses délices, et moi aussi après lui d'ailleurs. De voir des évêques anglicans faire la cour à de jeunes parsons, dans l'espoir de trouver des maris pour leurs filles, avait pour lui une saveur particulière. Il ne pouvait prévoir que c'est peut-être ce qui arrivera dans une génération ou deux dans l'Église catholique romaine. Tout un hiver, il lut à la recherche du temps perdu, que lui avait prêté un ami qui venait souvent le chercher pour une promenade le long de la rivière. J'entends mon père et ma mère évoquer à table les personnages que je devais connaître un jour, Madame Verdurin, Monsieur Charlu, à qui je prêtais le visage et les moustaches effilées des amis que je connaissais. Odette de Crécy, il prenait dans mon imagination autant de réalité que des membres de notre famille ou certains hobereaux habitant des châteaux des environs dont nous nous moquions quelquefois. Comme tous les gens atteints du vice impuni, la lecture, n'est-ce pas ?
Oui, parce qu'on pourrait croire, oui.
Mon père lisait de façon anarchique tant que les livres qui lui tombaient sous la main, Le Bon et le Mauvais, et jusqu'à La Série Noire de chez Gallimard, roman de police, dont il fit dans les dernières années de sa vie une ample consommation.
Alors, je me permets de vous interrompre là parce que quand je suis, comme j'ai eu le privilège d'être reçue chez vous, il y a quelque chose de très touchant, c'est que vous vivez dans votre salon, du moins dans les parties visibles, sous l'œil de votre grand-père qui est au mur et sous celui, au fond, de votre père que vous avez peint. Et alors, ce qui est intéressant dans tout ça...
Mon grand-père aussi, le portrait était de moi.
Ah oui, le portrait est aussi de vous, parce que vous êtes un peintre et aquarelliste. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et dans chacun des deux cas, le grand-père comme le père tiennent un livre. Le livre est vraiment l'emblème de votre vie.
Absolument.
Vous êtes un homme, on dirait presque que vous êtes un homme livresque, comme on disait autrefois.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein? C'est vrai, les livres jouent. J'ai d'ailleurs chez moi, si vous êtes venu, je crois.
Je suis venu. Mais
vous n'avez pas vu ma bibliothèque.
Si, je vous ai photographié devant, même.
Ah,
je crois.
Oui, bien sûr.
Oui, mais en effet, c'est une bibliothèque cocon. Et très vite, ça, nous allons faire une petite pause et en reparler. Très vite, vous arrivez dans un comité de lecture. Non seulement le livre est votre vie, nous allons revenir sur vos années de jeunesse, mais juste après la guerre à Marseille, vous connaissez Robert Laffont.
Qui me prend comme lecteur.
Voilà, et vous allez avoir travaillé avec une équipe rêvée de l'immédiate après-guerre. Nous nous interrompons 2 minutes et nous reprenons.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise ? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Michel Mort, nous reprenons votre habit vert où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à Marseille, juste après la guerre. Vous rencontrez Robert Laffont, il vous embauche dans son comité de lecture avec des gens formidables. Vous fréquentez Kléber et Dins, vous fréquentez Jacques Laurent, toute la bande des Hussards, dont Michel Déon, qui est votre copain à l'Académie française. Qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'est-ce que vous en gardez ? Parce que la plupart des gens qui ont vécu l'après-guerre et le racontent aujourd'hui sont les gens de la bande à Sartre, si je puis dire.
Ah, bien sûr.
Et vous en parlez, vous y faites un peu allusion. Ce n'était pas du tout votre truc.
Non, pas du tout. Non, d'abord, j'étais avocat à Marseille, au barreau de Marseille. J'avais fait transporter mon inscription au barreau de Morlaix, ma ville natale, où j'ai plaidé quelquefois pendant à peu près 8 mois, à peu près. Pourquoi j'avais fait ça ? Parce que, c'est une chose que l'on a oubliée peut-être un peu, la France était coupée en deux à l'époque. Les Allemands qui étaient entrés en France facilement et d'une façon effrayante, n'est-ce pas, avaient gardé tout l'ouest de la France.
Oui, oui.
La Normandie, la Bretagne et ce qui suivait. Et ils avaient laissé un terrain assez grand quand même, du sud, où il n'apparaissait pas. Je n'ai pas vu pendant plusieurs années un seul Allemand sur les régions de Marseille à Nice.
Oui, vous avez vu quelques Italiens, vous avez tiré dessus, mais bon... Ça d'ailleurs, il y a un passage magnifique.
Ah ben, les Italiens, oui, j'ai tiré dessus, naturellement, c'était mon métier.
On va revenir, attendez, tout de suite, à Marseille. Mais je voudrais simplement lire le tout petit passage, très amusant, parce que tout le monde va découvrir quelque chose comme moi, qui est dans Vers l'Ouest, et vous dites... Alors, vous dites ça, j'ignorais alors, donc ça c'est en 39, hein. J'ignorais alors que je passerais toute la drôle de guerre dans un poste en montagne, au-dessus de la Vésubie, près du village de Saint-Dé, à l'endroit où la frontière avec l'Italie s'incurvait à notre détriment, laissant à notre voisin des arpents de neige pitonnant à 3000 mètres d'altitude. C'était là un cadeau que Napoléon III avait fait à Victor Emmanuel, quand le comté de Nice fut rattaché à la France pour lui laisser ses chasses à l'isard. Alors ça, c'est merveilleux. Donc, à la signature de paix en 45, Georges Bidault, alors ministre des Affaires étrangères, insista pour que ces montagnes inhospitalières, sauf pour l'isard, soient rattachées à la France, la frontière retrouvant son tracé naturel le long de la ligne de crête. Ça, vraiment, c'est un passage merveilleux d'humour. Et oui, voilà, oui. Vous vous retrouviez avec les isards, vous, pendant la guerre.
Hein. Oui, oui, bien sûr.
Voilà. Donc, après, nous nous retrouvons donc avec Lafont à Marseille, où vous êtes donc avocat. Hein,
oui, c'est ça. Voilà. Mais Breton, et n'ayant quitté ma Bretagne qu'à l'âge de presque 30 ans, je connaissais un peu de Marseillais dont j'avais fait connaissance pendant la drôle de guerre, c'est-à-dire qui, comme moi, se trouvait dans les Alpes. Mais malheureusement, je connaissais personne à Marseille, de sorte que je n'avais pas de clients. Alors j'ai plaidé assez souvent au tribunal militaire pour défendre des soldats qui avaient été condamnés et qui allaient être en prison pour des faits d'avant la guerre elle-même. Du temps de la drôle de guerre, des choses pas très graves, mais qui leur avaient permis de ne pas être arrêtés par les Allemands et de ne pas être prisonniers.
Bon, et donc Lafont vous embauche. Et alors, quand nous parlons, nous avons sauté comme ça après la guerre, mais alors il y a un personnage que vous connaissez au milieu des Isards, c'est le fameux Bassompierre.
Ah oui.
Et Bassompierre est un camarade, un ami, un personnage à la, si j'ai bien compris, à la grande gueule et au grand cœur et au grand courage, mais qui s'est un peu fourvoyé, disons, par rapport aux politiques du temps. Comme beaucoup dont on parle peu, qui se sont engagés contre le communisme d'abord, comme d'ailleurs Lamazière avait fait ça aussi, et qui se sont retrouvés souvent, évidemment, pris dans les rangs des Allemands contre le communisme. Donc, évidemment, c'était de la trahison pour la patrie. Alors, Bassompierre est un personnage extraordinaire que vous racontez plusieurs fois, merveilleux, et vous lui dédiez le tombeau de la Rouerie. C'est lui, je crois, c'est son histoire, n'est-ce pas ? Donc, racontez-nous d'abord qui était ce Bassompierre et pourquoi est-ce une des grandes aventures de votre vie, finalement ?
Bassompierre, qui était lieutenant et qui, je crois, avait choisi l'armée, d'ailleurs, et pensait rester dans l'armée après avoir fait son métier d'officier dans un régiment de montagne qui s'est trouvé, donc, dans les Alpes.
Avec vous ?
Avec moi, oui. Et moi, je me trouvais dans le même cas que lui. Je ne le connaissais pas avant.
Et vous étiez commandait... tout jeune, hein, on parle que vous avez 24 ans.
Alors, et j'étais sous-lieutenant, ayant passé par l'école militaire, où les gens qui faisaient leur service militaire pouvaient devenir sous-lieutenant, pouvaient devenir officier. Bassompierre, à l'époque, faisait son service militaire et était même entré dans l'armée. Et il commandait le fort de Concetas, qui dominait la vallée de la Vésubie. C'était un fort, je ne sais pas combien de soldats il y avait dans ce fort, mais enfin qui était tout de même assez important. Il avait un ou deux canons de marine, et il avait également des mitrailleuses. C'était un fort qui se trouvait au-dessus d'une ville de la vallée et qui était fait pour arrêter une invasion italienne, une invasion d'un ennemi. Et il était là. Et alors, je l'ai évidemment connu, puisque moi, qui commandais une section de skieurs...
Vous l'avez connu à ce moment-là ?
Je l'ai connu là. Alors, j'ai évidemment, quand j'ai été dans cette vallée...
Vous avez fait, oui, je rappelle ça, vous avez fait le coup de feu ensemble.
Alors, oui, d'abord, nous avons fait la drôle de guerre ensemble,
oui, c'est
pour
vrai,
ainsi dire, laquelle consistait à se recevoir, moi, chez lui, et lui chez moi, et à faire un bon repas, à boire pas mal, et voilà.
Oui.
Et moi, au tout début de la drôle de guerre, il y avait encore un peu de neige, et j'ai pu faire un peu de ski.
Bon, donc la drôle de guerre, elle était drôlement rigolote, quoi.
Avec mes hommes, oui, n'est-ce pas,
oui.
Une drôle de guerre très agréable, mais qui s'est terminée, vous savez comment.
Oui.
Alors après, j'ai attendu les Italiens dans des petits cours que j'en avais deux à la frontière même, c'est-à-dire là où il y avait de ces animaux bizarres,
les isards,
et je suis resté là en attendant, et j'ai eu deux attaques dont l'une un peu dure qui m'a quand même valu la croix de guerre.
Alors, donc, le cher Bassompierre, vous en parlez parce que vous en parlez plusieurs fois, vous en parlez aussi dans Vent d'Ouest, je crois.
Je voudrais bien lire ce que je dis.
Voilà, vous dites dans le tombeau de la Rouairie, c'est un personnage incroyable que vous revoyez plusieurs fois, qui est truculent, qui est, parce qu'il faut le raconter, moi je le raconte en tant que lectrice. C'est un personnage qui a du tempérament, qui vous fascine,
qui est
finalement.
Très vivant.
Oui, et que vous aimez profondément.
Mais oui, que j'aime beaucoup.
Et donc voilà ce que vous en racontez dans Le tombeau de la Rouairie.
C'est à Bassompierre que je songeais en écrivant ce livre, un livre sur la Rouairie, qui était un militaire d'avant la Révolution et qui, je parle actuellement de la Rouairie, et qui a fait la guerre des États-Unis, qui a réussi à quitter l'Angleterre.
Donc c'est une comparaison.
C'est une comparaison.
Oui, c'est ça.
C'est à Bassompierre que je songeais en écrivant ce livre, le livre sur la Rouairie, dont on parlera peut-être tout à l'heure. À lui et à d'autres soldats perdus, comme la France en a connu, tout au long de son histoire, de Cadoudal à Rossel, combattant de la Commune de Paris en 1871, à Jouot, à Élie de Saint-Marc. Si j'aime ces hommes, c'est pour leur courage, leur sens de l'honneur et leur fidélité à la parole donnée, que ce soit au roi, à un chef respecté, à un peuple. Hommes d'instinct, ils étaient faits pour l'action. Et c'est l'événement qui justifie ou condamne l'action. Le cardinal de Retz l'a dit avant moi. Soldats perdus et souvent oubliés, il faut bien qu'une voix s'élève de temps en temps pour rappeler leur nom. Je ne peux m'empêcher d'évoquer la complainte de Mandrin que Bassompierre, d'une façon étrangement prémonitoire, chantait quand nous revenions d'une virée dans la Vésubie et que nous regagnions le fort de Concetas qu'il commandait et moi mon poste dans la vallée de la Colmiane. Monter sur la potence, c'est le chant. Monter sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un buisson. Compagnons de misère, allez dire à ma mère qu'elle ne me reverra plus. Je suis un enfant, vous m'entendez ? Qu'elle ne me verra plus. Je suis un enfant perdu.
C'est magnifique, oui.
C'est le mot. Il aurait pu chanter tous ces hommes que je cite là. Donc, eu la malchance de se battre pour une cause qui était mauvaise. Et ils n'en s'en rendaient pas compte.
Pas complètement mauvaise. Ils ont pris des mauvais alliés.
Oui, et surtout de mauvais alliés. Là, Bassompierre s'est battu. Je l'ai vu, une fois qu'il avait gagné, qu'il était entré dans cette troupe française qui s'est battue avec les Allemands contre les Russes. Évidemment, c'était pas acceptable. Et c'était une erreur. Je lui ai dit, d'ailleurs, je me rappelle lui avoir dit, écoute, laisse ça à d'autres gens que toi. On a besoin d'hommes comme toi. Mais il n'y a rien à faire. C'est justement pour qu'il n'y ait pas que des mauvaises têtes, me dit-il, que je vais me battre avec les Allemands. Ça n'a pas d'importance.
Et il en est mort. Il a été exécuté.
Alors, il a réussi à se... Oh, ça a été une chose extraordinaire. Il a été fait prisonnier. Ce sont des Français, c'est un corps français qui a réussi à le prendre, bien qu'il portait l'uniforme allemand et il était dans une troupe allemande, sont les Français qui ont réussi à le prendre. Et ce Français qui commandait cette troupe française était Foch, le petit-fils du maréchal Foch.
Et
oui, tout était
incroyable.
Absolument contre lui.
Oui.
Et le maréchal Foch a su qu'il avait Bassompierre. On lui a dit, laissez de s'en aller, vous savez, laissez de fuir. Eh ben, laissez-le fuir et ne courez pas après, a dit Foch, qui savait ce qu'était le courage, malgré tout. Et en effet, c'est ce qu'a fait Bassompierre. Il est donc parti, il a réussi à quitter ce régiment allemand commandé par Foch. Et Foch n'aimait pas les Allemands, et ça s'est trouvé comme ça. Il a réussi à fuir Bassompierre, à aller en Italie, à fuir. Il a réussi à partir, et il montait sur un bateau quelque part en Italie, et il a été reconnu et arrêté. Alors on l'a ramené en France, il a été un prisonnier, il a été condamné à mort. Des hommes ont essayé de le défendre, de montrer qu'il avait tout de même la croix de guerre, qu'il avait eu en France, il s'était battu comme moi, comme quelques autres, contre les Italiens. Il n'y a rien eu à faire. Il a été condamné et il a été fusillé. Il est mort fusillé.
Ça a été une douleur pour vous, on le sent toujours.
Ah, ça a été une grave douleur.
Vous en parlez dans plusieurs livres.
Et à ce moment-là, j'étais en Amérique.
Oui.
J'étais parti, pour moi aussi dégoûté de la France de l'époque. J'étais parti en Amérique et je ne pouvais pas revenir. J'avais mis 15 jours ou 17 jours pour aller en Amérique. C'était devenu... Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, naturellement. Je n'ai pas pu aller venir à son procès. L'avocat m'a dit, ça n'aurait servi à rien. C'est pas vous qui auriez pu le... Il a été condamné. Ça m'a fait beaucoup de
oui,
peine.
Jusque dans tous vos livres, dans plusieurs de vos livres, vous en parlez ou vous l'évoquez. Et donc, ça aurait été vraiment un autre vous-même,
oui,
d'une certaine manière.
Oui, sûrement.
Oui. Nous allons nous interrompre quelques minutes, Michel Mort, et puis nous reprenons tout de suite.
Retrouvez nos émissions consacrées à l'histoire en compagnie de Christophe Dickès dans notre émission « Un jour dans l'histoire ». Témoins, acteurs, les plus grands historiens contemporains sont invités sur Canal Academy à partager leurs points de vue, leurs analyses, leurs travaux historiques. Découvrez également les rubriques éphémérides et portraits. Éphéméride revient sur une date charnière de l'histoire. Les portraits sont consacrés aux personnages influents. Toutes ces émissions sont sur Canal Academy en libre téléchargement.
L'habit vert avec Michel Mort, que nous reprenons maintenant. Et nous allons reprendre en parlant des femmes, parce que finalement, les femmes traversent peu vos livres. C'est un univers d'hommes quand même, j'ai l'impression. Peut-être me démentirez-vous, mais enfin...
Non, j'aime beaucoup les femmes.
Oui, mais comme romancier, je parle de vos personnages de romans.
Mais je les aime de toutes les façons.
Bon, très bien. Alors, il y a un personnage de femme, justement, dans La prison maritime, l'un de vos livres les plus célèbres, célébré par les académiciens, puisque je crois qu'il a eu le prix de l'Académie française. D'ailleurs, vous êtes académicien français sous toutes les coutures, parce que vous avez aussi reçu le Grand Prix de littérature pour l'ensemble de votre œuvre de l'Académie française. Donc vraiment, vous n'y coupez pas.
Je ne peux pas me plaindre.
Vous n'y coupez pas. Et dans La prison maritime, qui est donc un livre que moi, c'est le livre qui m'a fait vous découvrir. Moi, j'avais 17 ans et j'ai lu ce livre que j'ai trouvé extraordinaire quand j'avais 17 ans. Voilà, j'étais votre lectrice inconnue. Vous parlez de Alain qui parle toujours du lecteur inconnu et que vous avez toujours envie de trouver votre lecteur inconnu, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis votre lectrice inconnue.
Je ne pouvais pas en avoir de meilleur.
C'est gentil. Alors, dans La prison maritime, voilà un passage qui donnera un bon exemple de votre style. Il s'agit, évidemment, on s'en souvient, de toute une histoire de marins. Il y a toute l'histoire de la Bretagne avec un navire, avec tous des personnages plus foldingues les uns que les autres, de la châtelaine irlandaise, je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment un roman, pas de cap et d'épée, ça on ne peut pas dire, mais de mer et de cordage, quoi. Et donc, il y a un moment où vous parlez d'une Jennifer, de la fameuse Jennifer. Le voilà, Michel Mort, débordé par cette fougue, je crois.
Alors là, il est en Irlande.
Voilà, expliquez-nous, oui.
Il est en Irlande, n'est-ce
oui,
pas
oui, oui, oui.
Il se promène sur un quai, et près d'un bateau, il est à terre à ce moment-là, il a quitté son bateau. Et une jeune fille qu'il ne connaît pas, qui n'était pas à bord et qui était là, est venue près de lui et
le titiller.
Voilà. Débordé par cette fougue, c'est lui qui parle. Je suivis de loin la jeune fille et la rejoignis devant le roi Arthur. Le roi Arthur est le nom du bateau. Je m'assis auprès d'elle au bord du quai, les jambes pendantes sur la pierre rugueuse, couverte de grains de sable et de fragments de coquillages. Elle posa la tête sur mon épaule, et nous restâmes dans cette position un long moment sans parler. D'un bond, Jennifer se leva et, me tirant par le bras, me fit lever à mon tour. « Je suis plus forte que vous, » dit-elle, se jetant sur moi par traîtrise. Elle me ceintura, fit plier mon corps, faillit me renverser. Je trouvai la force de me dégager et cherchai de reprendre souffle. Nous luttâmes, joue contre joue. Les seins lourds de Jennifer se pressaient contre ma poitrine. Un rendement lui sortait des narines. Un peu de bave coula sur ma main. J'entourais les deux bras, les cuisses dures et fraîches, et tentais de la soulever sans y parvenir. Enfin, le corps de mon adversaire se détendit, et je sentis que ma force ne servait plus qu'à le maintenir debout. Nos deux têtes reposaient sur l'épaule l'un de l'autre. Les bras encore mêlés, nous avancions et reculions à peine sur nos jambes affaiblies, comme ces champions d'un marathon dérisoire que j'ai vu se soutenir sur une piste de danse aux actualités du cinéma. Une tendresse me vint pour ce grand corps vaincu. J'arrête là.
Oui, ben dites donc,
pour un homme. C'est pas tout à fait fini, mais.
Pour un homme né en 1914, vous avez des beaux souvenirs.
Eh bien. Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire que mes premiers souvenirs, c'est les souvenirs de la guerre de 14.
Ah bon ? Comment
oui.
ça ? Dans le ventre de maman ou...
Je suis né avant 14.
Oui, oui.
Et mes premiers souvenirs...
Enfin, avant le déclenchement de la guerre, plus exactement.
Vous êtes non. Je suis né en...
Ah bah, bien sûr, oui.
Oui, je suis né juste avant la guerre de 14,
oui, oui.
De sorte que mes premiers souvenirs, quand j'ai commencé à... Les premiers souvenirs, c'est 3-4 ans, non ? On commence à...
Oui.
Et j'étais à Brest,
oui.
Chez mes grands-parents de ma mère. Et mes premiers souvenirs datent de la guerre.
Et c'est des vrais
et
souvenirs.
D'abord, j'ai eu un oncle que j'aimais beaucoup qui a été tué. Qui était médecin et qui a été tué dans une troupe de cavaliers. Enfin bon, j'ai mes souvenirs.
Et dites-moi la fameuse devise de Morlaix, moi j'aime beaucoup. Si les Anglais...
Si les Anglais te mordent, Morlaix.
Voilà, voilà, là, c'était si les Allemands te mordent, te mordent, Morlaix.
Bon. Mais si les Anglais te mordent, Morlaix.
Alors, vous aviez un tropisme justement anglais, puisque vous aimiez l'anglais, la langue anglaise, que vous avez été traducteur de certains romanciers américains, dont Styron, dont le grand Styron. Et puis, vous voilà type à partie pour les États-Unis, pour le Canada d'abord, je crois, puis ensuite très vite vers Yale, la Californie, où vous enseignez. Et alors là, vous dites vous-même que ça a été des années de pas paradisiaque, mais presque, où vous avez découvert un tout autre univers qui vous laisse mitigé. D'ailleurs, il semblerait que vous adoriez transmettre, mais qu'en même temps, les Américains vous rendent perplexe.
Écoutez, oui, ben c'était le troisième ou quatrième métier que j'ai fait. Ben, puisque j'ai été avocat, j'ai été donc dans l'édition.
Dans l'édition lecteur de chez Lafon.
Chez Lafon.
Puis chez Gallimard, d'ailleurs, à la fin.
Et puis après, ouais. Alors. Et puis j'ai été professeur. Professeur.
Et puis vous voulez académicien, c'est un métier.
Oui,
hein.
Non, mais bon, je ne vais pas vous raconter pourquoi, comment oui. Ça s'est fait, bon. Parce que ça vous ennuierait. Mais voyons, ça tient à...
On vous sent jubilé quand même sur les campus américains. Jubilé.
J'ai bien aimé, bien aimé.
Nous nous sommes interrompus un moment, Michel Mort, parce que vous avez eu un trou de mémoire. Vous trouvez ça terrible, mais déjà dans Vers l'Ouest, vous écrivez un paragraphe que je trouve merveilleux sur la mémoire, parce qu'un écrivain n'est que finalement mémoire. Dostoïevski disait « l'inspiration, c'est la mémoire ». C'est une belle phrase. Et dans Vers l'Ouest, vous écrivez quelque chose qui déjà est douloureux. À un moment donné, j'ai noté dans le journal de mes découvertes et de mes déceptions d'alors l'essentiel des propos du révérend père. Enfin, peu importe, c'était un religieux. La première phrase de ces notes me plonge dans la consternation. Longue conversation hier avec le révérend père B, supérieur, etc. Il vient de Rome et m'a donné des nouvelles de Pascal. Et vous dites, qui est Pascal ? C'est ce qu'il m'est impossible, 40 ans plus tard, de me rappeler. Ce trou de mémoire m'atterre. Un certain Pascal a-t-il tenu dans ma vie une place assez grande pour que je me réjouisse d'avoir de ses nouvelles? Et comment ai-je pu oublier totalement son identité? Mais que penser alors de ces souvenirs que je rassemble et qui donnent sans doute une image incomplète, donc injuste, de ceux que j'ai connus? Les portraits de ses amis de jeunesse, et pourquoi ceux-là et pas d'autres, sont-ils faux? Puisque je ne sais plus qui est Pascal. Est-ce que ce n'est pas tout l'art de l'écrivain ? Est-ce que ça ne consiste pas à oublier autant qu'à se rappeler, à choisir ?
Si, bien sûr. J'avais oublié ça. Mais je me rappelle très bien, en effet, comment ça m'est venu, comment j'ai pas... Et je m'en suis voulu de ne pas me rappeler qui était ce Pascal. Évidemment.
Mais toute notre vie est pleine d'oublis de ce genre, tous nos amours.
Évidemment. Il y a plein de choses comme ça.
Oui, mais est-ce que ça n'est pas ça l'art de l'écrivain aussi ?
Ben ça n'aide pas l'écrivain d'oublier les noms des gens qu'il a connus. Il a besoin de se rappeler ces gens pour les reproduire dans ses romans et de leur imaginer même des vies qu'ils n'ont pas eues. L'écrivain invente aussi quand même. Il ne fait que se rappeler, mais également c'est un peu les deux choses.
Quel est le livre de vous-même qui vous est le plus cher maintenant, finalement ?
Écoutez, c'est très difficile. D'abord, je vous avoue que pour venir chez vous, j'ai relu un petit peu certains morceaux de mes livres et je le lisais avec un étonnement, m'ayant complètement oublié que j'avais écrit ça. Parce que je ne les relis pas.
Mais c'est merveilleux. Alors, vous avez découvert un bon
écrivain ?
Alors,
j'ai trouvé des choses, oui, qui m'ont étonné. Je me disais, tiens, oui, et ça m'a rappelé certaines choses que je... Mais vraiment, je crois que tout auteur connaît des problèmes comme ceux-là. J'imagine, enfin.
Mais c'est merveilleux, donc vous avez découvert un grand écrivain qui s'appelle Michel Mort.
J'ai découvert un écrivain, oui, qui s'appelle Michel Mort. Enfin, si on veut. Mais la maison du père...
Oui. Alors, attendez, dans la maison du père, quand s'annonce la vieillesse, c'est ça, page 132. Il y a le dernier, les dernières pages qui, je vous le dis tout de suite, c'est page 132 pour les lecteurs qui voudraient le relire. C'est dans la maison du père. Et vous dites quand s'annonce la vieillesse, c'est un beau passage aussi. Voilà, quand vous finissez par la vieillesse, justement. Alors que vous êtes bien jeune, je trouve, pour un vieux.
Quand s'annonce la vieillesse, pour moi, elle s'est annoncée depuis déjà pas mal, plusieurs années.
Oui, oui, mais elle continue à s'annoncer.
Je ne suis pas certain qu'il soit bon de retourner au lieu de son enfance. On y prend une conscience plus aiguë du temps qui passe, qui a passé. Breton par toutes les fibres de mon être, je souhaite parfois, dans une maison nouvelle, me réveiller provençal. Ça s'est d'ailleurs produit. Devant de nouveaux horizons, je retrouverai, me semble-t-il, une nouvelle jeunesse. Et pourtant, je reviens ici chaque année. C'est dans ma maison de Kerveline à Lokirek, prisonnier de mon passé, de cette maison, du souvenir de ce que j'ai aimé, du souci de ce que j'aime. Est-ce tout cela, cet ensemble d'attachements, de préoccupations et de routines qui s'appelle la tradition? C'est donc d'elle et de mes chimères que je suis prisonnier.
Merci Michel Mort.
Merci.